48 FM Le Mag. Culture,
logement,
environnement,
cuisine, gastronomie.
48 FM.
Emploi, développement économique,
vie associative,
tourisme,
rubrique pratique.
48 FM Le Mag.
Sport, nature, TIC,
citoyenneté,
patrimoine. Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce 94e MAC de 48 FM. Et le programme reste bien entendu le même, vous en avez l'habitude, une heure d'émission, deux thèmes d'actualité locale. Alors avec moi pour présenter ce MAC aujourd'hui, Nicolas qui est là. Bonjour Nico.
Salut.
Nous allons parler du Conseil Général et des élections qui approchent avec le directeur du Conseil Général de la Lozère, Éric Moratti. Bonjour.
Bonjour.
Et ensuite, nous parlerons cinéma avec Guillaume Sapin, le président de l'association Floracoise La Nouvelle Dimension, qui a un peu de retard car il vient de Flora, qui va arriver en cours d'émission. Nous le retrouverons dans cette deuxième partie aux alentours de 13h. Donc nous commençons avec vous, Monsieur Moratti, avec à l'approche des élections départementales. Eh bien, nous avons décidé ici de faire un point, non pas sur le bilan du Conseil Général sortant, ni sur les différents candidats qui se présentent sur les différents cantons, mais sur les enjeux de ces élections, ainsi que sur les fonctions, les compétences d'un conseil général. Voilà, Nico, on avait fait pareil pour le Sénat, et on s'est dit que c'était intéressant eh bien, de présenter à nos auditeurs, finalement, qu'est-ce qu'un conseil général ? Parce qu'il y a plein de personnes qui ne savent pas, finalement.
Tout à fait, ouais. Et puis, les éclairer un peu sur le rôle des gens qui travaillent aussi, des compétences, de tout ce qu'ils gèrent, parce que c'est énormément de choses sur un territoire comme le nôtre.
Voilà, et donc la prochaine élection, le conseil départemental qui s'appellera un conseil départemental, donc à la place du conseil général, en rapport avec la loi du 17 mai 2013. On va commencer avec un petit rappel historique des grandes dates de la création des conseils généraux, qui étaient les conseils départementaux, déjà à l'époque, en 1789. Lorsqu'ils ont été créés, le territoire français était découpé en 83 départements. 1800, l'organisation est remaniée, le conseil général apparaît. 1871, le département, qui est une circonscription administrative de l'État, devient une collectivité territoriale par la loi du 10 août. Et enfin, en 1982, la loi de décentralisation du 2 mars 82 transfère l'exercice du pouvoir départemental du préfet au président du Conseil général. Pour commencer avec vous, Éric Moratti, peut-être nous expliquer en quoi consiste votre rôle, le rôle de directeur des services du Conseil général.
Eh bien, le rôle du directeur général des services, c'est celui d'être l'interface entre les décisions des élus, les choix des élus qui sont effectués par l'Assemblée départementale, qui se réunit régulièrement, et puis les services pour la mise en œuvre et en application des décisions au quotidien, mais aussi les grands projets qui sont portés par les élus. Donc, je suis l'interface entre les deux.
D'accord, voilà, beaucoup de compétences, donc beaucoup de services. Les compétences, justement, actuelles, parce qu'on sait que ça va changer, d'un conseil général, quelles sont ses compétences et ses missions ?
Alors, le conseil général a une multitude de compétences. Alors, il a des compétences obligatoires. C'est celles sur lesquelles on attend nécessairement la collectivité départementale. Alors, on va parler naturellement, le poids le plus important, c'est le domaine social, de l'intervention du département. Cela concerne de l'enfance, la famille, mais aussi les personnes en situation de précarité et puis les personnes âgées et personnes en situation de handicap. Donc ça, c'est tout le domaine social et donc le département est présent dans tous ces secteurs d'activité.
Avec ensuite, plusieurs services, c'est ça ?
Oui, bien sûr, oui. Tout à fait. Donc il y a plusieurs services qui interviennent.
La service, PMI,
Protection maternelle infantile, aide également pour l'aide sociale pour les enfants en difficulté, mais donc ça c'est un service, et puis service du lien social pour toutes les personnes.
C'est la DSD, c'est ça ?
Voilà, c'est la direction pour des services départementaux, des services sociaux départementaux, qui a dans cette direction trois services, donc enfance-famille, lien social pour accompagner les personnes en situation difficile socialement, et notamment les allocataires du RSA, et puis l'autonomie qui concerne les personnes âgées et personnes en situation de handicap. Voilà donc pour le social. Autre compétence du département, c'est celle de la gestion de la route, route départementale. En Lozère, nous disposons de 2200 km de route départementale. Donc c'est l'entretien, les travaux et la viabilité hivernale. Hein. Et en ce moment, c'est un sujet énormément d'actualité, mais c'est le rôle du département d'assurer ce travail sur nos routes départementales. Nous avons aussi une compétence en matière de collège, donc la gestion des collèges, que ce soit sur l'investissement, mais aussi la gestion au quotidien avec des personnels qui interviennent tous les jours dans les collèges du département. Donc ce sont les éléments de base d'intervention du département, mais à côté de cela, le département intervient aussi au travers de structures particulières. Je veux parler dans le domaine culturel, par exemple les archives départementales, donc la mémoire du département, c'est le département. La bibliothèque départementale de Pré, les bibliobus qu'on voit circuler sur nos routes, c'est aussi des services du département. Le laboratoire départemental d'analyse pour tout ce qui est analyse, que ce soit des eaux.
Service vétérinaire, c'est ça?
Service vétérinaire, c'est un service de l'État. Donc, le laboratoire, lui, a vocation plutôt à assurer les analyses, l'analyse de l'eau, analyse et accompagner vérification des analyses aussi de la santé animale pour les agriculteurs, donc et tout ce qui concerne aussi la santé humaine concernant les analyses faites par les bouchers, les boulangers sur l'hygiène qui doit être maintenue dans les différents ateliers. Donc tout ça, c'est le laboratoire départemental d'analyse. Nous avons aussi un certain nombre d'autres activités, la maison départementale du handicap par exemple, qui est aussi un élément qui dépend du Conseil général. Donc, comme vous le voyez, des compétences larges, mais aussi une compétence qui est accordée au département, c'est celui de l'accompagnement des collectivités, des communes, des syndicats intercommunaux, communautés de communes, pour leurs investissements. Et là aussi, le département est très présent dans le cadre de ces compétences. Là, on a parlé, je dirais, des compétences obligatoire de la collectivité. Mais à côté de ça, eh bien, le département s'est investi aussi dans le cadre de la clause de compétence générale. On y reviendra, j'imagine. Mais c'est aussi dans ce cadre-là que le département intervient, et notamment, un exemple, hein, c'est les interventions que le département a pu porter sur la téléphonie mobile. L'installation de pylônes de téléphonie mobile, c'était pas une compétence naturelle de la collectivité départementale. Les opérateurs privés n'ont pas couvert tout le territoire national, et donc dans les zones rurales, il a fallu trouver quelqu'un qui pourrait construire des pylônes. Et à qui on a pensé en premier? On a pensé au Conseil général, et donc avec l'aide de l'État, avec l'aide de nos partenaires, régions, fonds européens, eh bien on a pu construire là où on nous a autorisé, parce que là aussi il y a des réglementations en matière d'installation de pylônes de téléphonie mobile, là où on nous a autorisé à faire les pylônes, on les a construits et on a ouvert la possibilité aux opérateurs de s'installer sur ces pylônes. Voilà, c'était un exemple.
Voilà, beaucoup de clauses de compétences, pardon. On va parler après de la clause générale de compétences parce que c'est extrêmement important. Guillaume Sapin vient d'arriver, bonjour.
Bonjour.
Alors n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions à notre interlocuteur si vous en avez. Éric Moratti, qui est directeur des services du Conseil général. On est en train de parler donc de ce qu'est un Conseil général en vue des prochaines élections. Moi j'ai une question, donc beaucoup de compétences. Pour éclairer nos auditeurs, le budget, il vient d'où?
Alors, le budget, il est d'environ 140 millions d'euros. Hein, voilà à peu près le volume du budget du département. Alors, il provient de dotations de l'État.
Est-ce que c'est beaucoup pour une collectivité comme la vôtre, 140 millions d'euros?
Oui,
parce que si on le ramène par rapport à la ville de Mende, ça fait quoi? Ça fait 20 millions d'euros la ville de Mende.
Voilà, c'est ça. Et donc
140 millions d'euros,
c'est 7 fois plus. C'est 7 fois plus. Voilà. Et oui, c'est important. C'est important parce que on gère un territoire. Au-delà de gérer et d'accompagner, hein, comme je le disais tout à l'heure, des personnes, on accompagne aussi un territoire. L'entretien des routes, la présence sur le territoire nécessite un budget assez conséquent. Donc 140 millions. Alors l'origine, évidemment les dotations de l'État, hein, c'est parce que les collectivités, toutes les collectivités bénéficient de dotations de l'État. Actuellement, la tendance de l'État, c'est plutôt d'être dans une diminution de ses soutiens pour des raisons économiques au niveau national. Hein, bon, et donc, c'est la part prépondérante de l'intervention pour le département. Deuxième volet, toujours qui nous vient du niveau national, c'est pour assumer nos compétences. Par exemple, lorsque...
C'est les transferts de compétences.
C'est les transferts de compétences. C'est ce qu'on a expliqué. Voilà, d'accord. C'est-à-dire, par exemple, lorsqu'on verse le revenu de solidarité active, le RSA, à des personnes, eh bien, les dotations pour verser cette somme nous proviennent nécessairement du niveau national. C'est pas les contribuables lausériens qui payent pour ces...
Ça, c'est important de le dire.
Voilà, ouais. C'est important de le souligner. Il n'empêche que, et ça c'est un débat national, lorsqu'on nous a transféré ces compétences, je parle du RSA, de l'APA, l'aide personnalisée à l'autonomie pour les personnes âgées, ou la prestation compensatrice du handicap, la PCH, ces dotations qui nous sont attribuées l'ont été à un moment donné, mais elles n'ont pas suivi l'évolution de la dépense elle-même. Et donc, aujourd'hui, il y a certaines de ces dépenses où les dotations qui nous viennent du niveau national suffisent pas à couvrir les dépenses. Et pour nous, c'est des dépenses obligatoires. On va pas arrêter de payer une aide naturellement à une personne. Et donc, c'est nécessairement
on
là
va
pour
pas
le
faire
coup.
Des sélections à qui on paye et à qui on paye pas.
Voilà, on a l'obligation. La collectivité est engagée à l'obligation de le verser. Donc, nécessairement, les fonds que le département rajoute pour couvrir ces dépenses complémentaires, eh bien, c'est au travers de cette fois de ses propres ressources. Et ses propres ressources, elles proviennent pour nécessairement par l'impôt local que le département peut percevoir.
Ça représente quoi l'impôt local par rapport au reste ? Sur les 140 millions, ça fait quoi ?
Alors, sur
les... Si vous avez les chiffres.
Voilà, les chiffres sont... c'est de l'ordre d'un tiers, à peu près, qui proviennent des impôts. Alors, en général, impôts locaux, mais aussi droits de mutation, puisqu'on perçoit des droits de mutation sur les ventes qui ont lieu.
Les ventes immobilières,
etc.
Il y a une part sur les énergies, non ?
Alors il y a une part aussi sur les énergies aussi, sur les pylônes, sur les voilà, donc tout compris. Voilà, d'accord. Ça représente ces sommes-là. D'accord. Et puis naturellement, le reste c'est l'emprunt aussi pour les investissements que l'on réalise naturellement comme toute collectivité, on fait appel à l'emprunt. Voilà les ressources de la collectivité.
La Lozère, en tant que département rural, faiblement peuplé, de montagne, bénéficie d'un fonds de péréquation par rapport à d'autres départements ?
Oui, bien sûr. En effet, comme je le disais tout à l'heure, nous avons un territoire à gérer où les habitants souhaitent vivre comme ailleurs. Donc nécessairement, il y a des compensations. Alors, dotations minimales qui sont attribuées par l'État, mais aussi des fonds de péréquation entre départements, notamment, vous l'évoquez, sur les droits de mutation, eh bien, il y a des départements qui perçoivent naturellement, là où ils sont implantés, ils ont des recettes qui sont bien supérieures, même rapportées à l'habitant, qu'en Lozère. Et donc, il est assez naturel que nous puissions aussi avoir ces fonds pour permettre de vivre et de faire vivre les habitants sur notre territoire.
Donc on peut dire que s'il n'y avait que les habitants avec la fiscalité des habitants sur le département, on ne pourrait pas vivre en Lozère.
Non, c'est la solidarité nationale qui joue naturellement. On est au sein d'une nation.
Donc le fait de payer des impôts, c'est une bonne chose.
Ah, il faut payer les impôts nécessaires pour après la question peut se poser de savoir quel est le niveau de service qu'on veut avoir au niveau d'un territoire local, national. Et quand on met en face un service, il faut avoir les moyens.
Ouais. En vous écoutant, en fait, il y a déjà beaucoup beaucoup de services et donc il y a un coût de fonctionnement, parce que vous avez combien de salariés sur le CG?
650.
Oui, c'est ça. Donc il y a déjà un coût de fonctionnement pour répondre à l'ensemble de ces services. Donc du coup, une nécessité que le contribuable paye des impôts à la fois locaux et nationaux, puisqu'on voit qu'un tiers vient des ressources locales et que le reste vient de l'État, donc et des fonds européens, etc., bien sûr. Mais que globalement, c'est cette unité nationale... Hein, et des départements qui donnent L'ensemble des rénovations, des projets que vous mettez en œuvre, que les ramassages scolaires dont on n'a pas parlé, mais
bien sûr, transport scolaire aussi, bien sûr, qui est une compétence du Conseil général aujourd'hui. C'est 6 millions d'euros, si on va sur des chiffres. Hein, voilà, c'est de l'ordre de 6 millions d'euros, le transport scolaire de 4 300 élèves par jour.
Mais je pense que c'est important de le dire, parce que on va avoir des élections départementales, que beaucoup de gens sont pas forcément, se disent pas forcément, c'est important que j'aille voter. Aller voter, c'est aussi exprimer des choix. Et je pense qu'il faut réaffirmer le rôle de ce conseil départemental en disant que c'est pas, ils font pas rien, quoi. C'est pas de l'argent qu'on donne comme ça aux élus locaux, que c'est de l'argent qui va pour notre bien à tous, pour les transports de nos enfants, pour l'éducation, pour la culture, pour les aides, toutes les aides dont vous avez parlé dans le domaine social qui sont très très importantes. Il y a beaucoup de gens qui travaillent. L'entretien des routes, hein. Cet hiver, on n'a eu pas un petit peu de neige, on était content d'avoir des services. Je pense que tout ça, il faut le réaffirmer et dire aux gens que ça leur appartient, que ça dépend de leur choix aussi, et que c'est pas, et qu'il faut pas s'en désintéresser et dire de toute façon ils servent à rien, quoi. Voilà.
Ce serait vraiment très réducteur, et puis on verrait tout de suite les conséquences. De toute manière, c'est vrai que le conseil général, futur conseil départemental, apporte au quotidien justement un certain nombre de services à la population. Et en plus, il peut aussi construire des projets qui sont spécifiques d'un territoire à un autre. Par exemple, vous le savez, notre problématique sur le territoire du département, c'est le très haut débit, le haut débit, pour desservir l'ensemble de notre territoire. Là aussi, le département a souhaité s'investir, ce qui n'est pas nécessairement le cas dans tous les départements, mais c'est des choix unanimes, hein, de la collectivité, donc j'en parle très très simplement, parce que ça paraît être indispensable pour la population, pour maintenir la population, mais aussi pour la développer, pour accueillir des entreprises, pour que les entreprises qui s'installent sur notre territoire aient le même niveau de service, et donc puissent venir s'installer sur ce territoire. Et donc, pour nous, c'est aussi le rôle d'une collectivité que de dire, eh bien, en effet, comme vous le dites, hein, aller voter, c'est aussi de demander aux élus mener des actions qui correspondent à nos besoins. Et donc ça, ça fait l'objet de
avoir aussi un regard sur l'aménagement du territoire et se dire, bah, telle partie du territoire, il faut qu'on le développe plutôt dans tel sens, etc. Bon, je parle des on parle des voiries, mais des aménagements aussi des pylônes. On parle de du rayonnement économique de chaque territoire. Je pense que ça, c'est très très important, mais qu'il faut avoir une vision globale en fait sur un département. Ma question, ce serait plus celle pour vous, quel serait le seuil minimum pour qu'un département soit plus viable en termes de population, puisque en 1789, on avait quand même beaucoup plus d'habitants que ça. On a eu une grosse perte, bon, avec les guerres successives, mais aussi par un exode rural, par la famine. Hein. Donc on était autour de 173 000 foyers, je crois. Donc des foyers, c'était les maisons qui avaient une fumée. Donc en général, ils n'étaient pas tout seuls, ils étaient au moins deux ou trois. Donc on arrivait à une population extrêmement faible. Comment on peut remonter cette pente et comment on peut redonner une dynamique sur un territoire en faisant venir, bon, par l'attractivité économique, les infrastructures scolaires, éducatives, culturelles. Comment on peut faire ce projet ?
Eh bien, vous l'avez évoqué, hein, c'est un tout, c'est un ensemble. Un seul élément ne le permettra pas. Il y a plusieurs... Vous posez la question, quel est le seuil minimum ? Je pense qu'il n'y a pas véritablement de seuil minimum. Simplement, il faut être en capacité d'assurer un certain nombre de services qui permettent aux habitants de continuer à vivre sur ce territoire et à vouloir s'y installer. Et je pense que avoir une activité culturelle, avoir une activité sportive, avoir les infrastructures routières, bien évidemment, ou de très haut débit, c'est indispensable. Et tout est indispensable pour accueillir une nouvelle population. Et l'accueil de nouvelles populations, c'est un enjeu fondamental pour la Lozère. Elle regagne de la population aujourd'hui, mais c'est un élément très fragile parce que il suffit.
Parce qu'on bénéficie pas des flux sur le Languedoc, enfin sur le.
Sur le, sud.
De mer, hein, sur le
voilà,
sud, on bénéficie pas de tous ces flux.
Non, on n'en bénéficie pas.
Pas encore.
Ça viendra puisque on peut espérer en effet que, mais on le voit venir parce que finalement la nouvelle population qui vient s'installer sur notre territoire, d'où elle vient du sud de la région Languedoc-Roussillon. Donc ça veut dire que finalement, c'est une remontée de population vers notre département. C'est le flux le plus important. Donc, ça signifie en effet que peut-être dans le sud, les conditions d'accueil sont pas aussi satisfaisante que cela, parce qu'il y a une forte arrivée de personnes. Donc, nécessairement, il est possible que des gens trouvent que notre environnement, la qualité de notre environnement, la qualité de vie qu'il y a sur ce territoire est un atout pour pouvoir venir travailler, développer une activité et faire que on ait une vie familiale, locale. Oui.
C'est une image qu'on développe, ça. La oui, qualité de vie.
Absolument. D'ailleurs, vous le savez, avec en lien avec les pays, avec qui constituent notre territoire, on a développé des politiques d'accueil de nouvelles populations. Et c'est des éléments qui sont énormément mis en avant, justement, cette qualité de vie, cette qualité de service aussi, parce qu'on a un niveau de service qui est quand même satisfaisant proportionnellement à la population que nous avons. Le milieu associatif est l'un des plus dynamiques, on le sait. En matière sportive, nous avons un niveau de nombre de licenciés qui est l'un des plus importants de France. Donc tout ça montre que la vie locale est importante et c'est ce qui est promu dans le cadre de Lozère Nouvelle Vie, par exemple, qui est la marque de territoire pour l'accueil de nouvelles populations. Et le milieu culturel est un élément, je parle à mon voisin, est un élément fondamental aussi pour donner cette image d'un territoire où il fait bon vivre et où il y a aussi des bénévoles qui s'investissent pour développer ce territoire.
Très bien, Éric Moratti, j'aimerais revenir sur les compétences. On a parlé rapidement de cette clause générale de compétences. Est-ce qu'on pourrait vulgariser ce terme, expliquer ce qu'est cette clause qui est essentielle au niveau du Conseil général ?
Alors, c'est vrai que c'est un débat sur le maintien ou la suppression de cette clause de compétences générales. Qu'est-ce qu'elle signifie ? Elle signifie qu'une collectivité, si elle considère qu'il y a un besoin qui est non satisfait sur son territoire pour les habitants, elle peut se saisir de cette problématique et apporter une réponse à cette problématique. Donc, on peut considérer que c'est un élément, et comme je le disais tout à l'heure, par exemple, sur la téléphonie mobile, ça fait partie des exemples, mais il y en a plein d'autres dans d'autres domaines, nos aides, le soutien au milieu sportif, le soutien au milieu associatif, tout ça, c'est dans le cadre de la clause de compétence générale. Elle a été beaucoup critiquée, elle est beaucoup critiquée, et dans le projet qui est présenté devant le Parlement, elle serait supprimée à la collectivité. Pourquoi ? Parce qu'on a peut-être le sentiment au niveau national que dès lors qu'une collectivité a le droit de tout faire, toutes les collectivités qui ont le droit de tout faire, il y a une multitude de choses qui se font et finalement il y a peut-être des dépenses qui sont exagérées ou qui vont avoir du saupoudrage, des doublons, voilà. Donc ça, c'est le côté un peu critique, en effet, de cette clause qui permet de faire beaucoup de choses. Après, elle permet aussi de répondre à des problématiques locales qui peuvent être très différentes d'un territoire à un autre, et donc c'est aussi un moyen d'être en rapport avec son territoire. Et lorsque les élus font des choix de compétences dans ce cadre-là, c'est vrai qu'ils le font souvent dans un intérêt général absolu. Et donc on risque d'aller d'une extrémité peut-être à une autre où des choses ne pourront plus se faire parce que plus personne n'aura la compétence ou la compétence sera exercée à un tel niveau que les problématiques très locales, comme celles que l'on retrouve en Lozère, ne pourront pas être couvertes.
Par exemple, donnez-nous des exemples concrets.
Tout à l'heure, j'évoquais la téléphonie mobile. Si, par exemple, demain, on dit le département n'est plus compétent sur la téléphonie mobile, eh bien, on aura un regard de plus loin de l'État ou autre. Et on a vu que dans ces cas-là, la réponse est souvent tardive, voire inadapté par rapport à la réponse, par rapport à la population.
C'est vrai qu'il y a quand même un problème de... Alors, pas de compétences, parce que c'est vrai que sur nos petits territoires, hein, on a besoin de tout le monde. Et on voit bien dans le monde associatif, quand on fait des demandes culturelles, enfin des demandes de subventions, que c'est l'ajout de toutes ces petites subventions qui arrivent à faire les projets. Alors, c'est vrai qu'après, on peut avoir une autre analyse, celle de dire, mais si des collectivités étaient spécialisées avec des obligations de résultats et des obligations d'équité sur les territoires, est-ce que ce serait pas mieux puisqu'ils auraient davantage de moyens? Par exemple, on dit la téléphonie mobile, c'est plutôt le rôle du conseil régional de mettre en œuvre sur l'ensemble de son territoire, à son échelle, et avec une notion d'équité sur les territoires, hein, d'arriver à faire tout ça, puisque les moyens sont pas les mêmes, puisque là, on parle de milliards d'euros, alors que nous, on est sur des millions d'euros. Est-ce que, bien sûr, l'échelle n'est pas la même? Est-ce que c'est pas aussi une réponse qui serait donnée dans ce sens-là? Alors, ça résout pas tout, je pense, hein, peut-être qu'aussi ça pourrait dépendre de la façon de travailler avec son tissu local. C'est sûr que une collectivité locale comme la ville de Mende, par exemple, ne pas aider ses associations locales alors qu'elle en est quand même l'usufruitière, on peut dire ça comme ça, ce serait dommage parce que c'est un contact privilégié, puis c'est une bonne dimension. Par contre, est-ce que c'est au conseil général d'aider sur des associations qui ne seraient pas départementales mais qui seraient que locales, ou de donner des moyens aux villes, par exemple, avec des dotations supplémentaires? Est-ce que des fois, on n'est pas sur des doublons et sur des façons de recouvrir ou de saupoudrage politique ou de clientélisme? Est-ce que ce n'est pas pour éviter un petit peu ça?
Alors,
enfin, votre avis. Hein,
oui, mon avis est très partagé. Hein. Je dois dire que oui,
mais comme ça le bien, d'ailleurs,
peut être, ça peut avoir une réalité. En effet, il faut utiliser les deniers publics, hein, dont on est dépositaire, de la meilleure manière possible pour éviter justement cette situation qu'on pourrait qualifier de saupoudrage, de clientélisme. Alors, j'aime pas beaucoup ces termes-là, parce que derrière, il y a des projets qui sont portés par le milieu associatif, qui sont des projets qui ont été montés avec vraiment la volonté d'apporter un service à un territoire. Donc, je trouve que c'est un peu dévalorisant par rapport à ceux qui sont aidés. Alors, après, que ce soit en effet certains fonds puissent être concentrés sur une seule collectivité, pourquoi pas? En effet, il y a sûrement, et c'est sûrement une des pistes, hein, que le projet de loi aujourd'hui essaie d'analyser. Le problème que l'on peut avoir, c'est de se poser la question, est-ce que plus on éloigne la décision du territoire, est-ce qu'elle sera plus cohérente, plus éloignée, ou est-ce qu'on va perdre la proximité que l'on peut avoir sur un territoire comme le nôtre? Et ce que l'on peut gagner d'un côté, on peut le perdre financièrement de l'autre.
Par exemple, sur un aménagement comme le PRAE Antoine Chaptal, je pense que la ville et le département, c'est pas eux d'investir 50 millions d'euros dans des terrains. Vu les sommes à investir, c'est pas la bonne dimension. Donc que soit la région qui pilote ça quelque part pour des territoires, je trouve ça pas mal. Dans l'idée, parce que sinon, ça veut dire qu'on aurait mis à sec les finances publiques locales pour plusieurs années, quoi. Et du coup, on peut pas faire des investissements qui seraient plutôt à la dimension d'une collectivité. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'il y a un problème de dimension et que des fois, en voulant faire tout, en fait, on a un peu de mal à y arriver, surtout avec une fiscalité qui est pas forcément importante.
Oui, bien sûr, il y a des projets qui sont à une dimension supérieure et qui nécessitent en effet un investissement important et qui doit assurer l'équilibre d'un territoire. Et donc le développement économique, compétences régionales, c'est logique que la région investisse sur des zones de cette importance. Après, c'est de se poser la question, est-ce que sur un territoire comme la Lozère, une seule zone économique correspond et permettra d'assurer une harmonisation du développement sur ce territoire. Donc,
c'est pour ça qu'on parlait d'équité tout à l'heure.
C'est pour ça qu'il est important, voilà, en effet, voilà, de parler d'équité et aussi de proximité. Et le rôle du département aujourd'hui, c'est d'assurer ce rôle de proximité, de solidarité et de proximité, en effet, territoriale. Et là, le Conseil général a un vrai rôle à jouer, et c'est ce rôle-là que le département doit continuer à pouvoir jouer.
Voilà, et donc on sait que le Conseil général va devenir le Conseil départemental à l'issue des élections des 22 et 29 mars prochains. En Lozère, 13 cantons au lieu des 25 actuels. Nouveau parité obligatoire, donc 13 hommes, 13 femmes. Le problème, pour l'instant, c'est pas exactement les compétences du prochain conseil départemental, ce qui est quand même un problème de voter pour des personnes sans savoir ses compétences. Ce qu'on sait, parce qu'il y a quand même, ça parle au Sénat en ce moment, au Parlement, on sait que le social, dont personne ne veut, va rester au département. L'économie, c'était déjà géré par la région, ça devrait être amplifié, géré par la région et les communautés de communes. C'est évidemment les grands projets. Actuellement, les aides vers les TPE, c'est le Conseil général qui a cette mission-là. On pourra peut-être plus aider directement, par contre, les entreprises. Ça va être en fait des... Le nouveau conseil départemental va devoir directement voir avec la région pour essayer de récupérer des compétences. Éric Moratti, c'est ça, voir par exemple au niveau de l'économie, dire ben nous on aimerait travailler sur ces projets-là, laissez-nous cette compétence-là ou pas du tout.
Alors actuellement, on est en plein débat parlementaire. Hein, donc le Sénat a examiné la loi NOTRe, hein, puisque c'est le nom de ce projet de loi. À redonner des compétences au département, puisque à l'origine le projet gouvernemental c'était en effet que les compétences trois grandes compétences hein, du département pourraient glisser du département vers la région, la grande région, donc ce serait les routes, ce serait les collèges et ce serait les transports plus le développement économique comme vous le soulignez. Donc ça ferait un départ de compétences considérable hein, par rapport au département. Et la vraie question qui pourrait se poser, c'est quel avenir pour une collectivité comme le département s'il perd les compétences, mais il perd les moyens aussi. Hein, cela va de soi. Comment est-ce qu'une collectivité qui n'aurait en gros plus que à gérer le social, même si c'est très important, et la solidarité territoriale, l'aide aux communes, hein, puisque dans les projets de loi tels qu'ils étaient, c'était les deux compétences majeures du département, eh bien, elles auraient eu tendance à se réduire. Alors, les débats parlementaires sont en cours, c'est difficile, on semblerait nous donner que les collèges pourraient rester au département, mais pas les transports, pas les routes, peut-être les routes. Donc un grand flou pour l'instant.
Les questions qu'on se posait tout à l'heure, en fait, sont des questions que les parlementaires se posent, et c'est tout à fait logique. Et là, on rejoint bien une question de dimension, en fait, parce que c'est vrai que je ne sais pas combien ça coûte sur le budget de 140 millions d'euros les routes, mais je pense qu'on est autour de 20 millions d'euros au moins, non ?
Voilà, donc, c'est cet ordre-là. Hein. Il y a 12 millions en investissement, ouais. Le reste en fonctionnement.
Donc largement. C'est quand même une grosse partie et qui ne sont pas forcément utilisés que par nos concitoyens lozériens, qui sont utilisés par tous ceux qui traversent le département. Donc c'est vrai que sur ces dimensions-là, peut-être que ça peut être une bonne idée. Après, sur les collèges, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a ce débat qui porte plus sur le collégien et sur la continuité entre l'école primaire, maternelle, primaire, collège, lycée. Cette dichotomie entre les infrastructures, enfin entre celles qui les gèrent, hein, les collectivités locales, départementales et régionales, c'est vrai qu'elle semble pas être un bon choix actuellement. Alors, mais maintenant, voilà. Enfin, c'est vu de plusieurs aspects quand on est enseignant dans les collèges, on demande au conseil général, quand on est dans le primaire, on demande à la collectivité locale. Et c'est vrai que les moyens sont pas les mêmes. Pourtant, les besoins, les enfants sont les mêmes, quoi. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une logique aussi, là, de dimension, en tout cas, de stratégie commune pour faire que l'école retrouve une espèce de continuité, comme ça, de la maternelle jusqu'au lycée?
Alors, je reviendrai sur votre première question concernant les routes, parce que je pense que c'est un enjeu quand même assez stratégique pour un territoire. Alors, notamment par rapport à la gestion et l'entretien du réseau et notamment la viabilité hivernale. Le fait que les décisions sur les routes soient prises amende pour l'ensemble du réseau du département permet de bien prendre en compte les conditions météo quand il s'agit de déclencher la viabilité et de réagir rapidement. Parce qu'on a vu comment ça s'est passé par rapport à la gestion des réseaux autoroutiers. On avait une gestion localisé hein, sur les axes autoroutiers, et puis on l'a délocalisé. Les décisions sont prises soit à Marseille, soit à Clermont. Et on voit bien que la réactivité n'est pas aussi évidente et aussi forte. Plus on éloigne le centre de décision, plus c'est difficile de prendre des décisions importantes stratégiques sur les réseaux routiers. Donc nous, le département, on attache, quels que soient les élus, tous les élus sont très attachés au maintien de ces compétences. Pourquoi ? Et même des collèges. Pourquoi ? Parce que avec ce volume de compétences, transport scolaire, collège, route, on a une vision globale sur un territoire et on est capable d'intervenir, par exemple, on évoque les routes, viabilité hivernale, transport scolaire, tout est lié, desserte de nos collèges. Ça crée un lien, non pas évidemment sur la compétence éducation, mais ça crée un lien sur l'accessibilité, ouais. Le service rendu à la population et aux habitants. Donc c'est vrai que c'est une vision différente. En effet, on peut avoir une vision éducation nationale en disant il faut que la chaîne soit de compétences identiques et avec le gestionnaire des biens qui soit identique. J'ai du mal à imaginer que les communes disent je vais lâcher les écoles, c'est la région vue de Toulouse qui va gérer mes écoles et il saura combien il faut d'écoles sur Mende, il sait combien il faudra d'organisation, comment l'organisation sera nécessaire. Alors c'est là la grande difficulté de se dire sous quel angle on doit regarder les compétences.
Mais c'est bien ce que faisait l'État avant avec la direction départementale de l'équipement. Quand elle gérait les routes départementales, ils avaient, alors c'était l'État, mais ils avaient une antenne départementale qui permettait de la gestion, pas de Paris, mais du plan local. Donc, est-ce qu'on peut pas imaginer que la région puisse s'organiser avec une antenne départementale pour gérer au même titre et faire en sorte que les conseillers départementaux se consacrent plus au bien social, au développement local, à la vie de nos concitoyens?
Alors,
c'est une réflexion. Hein, oui, c'est pas, c'est,
non, mais j'entends, hein, voilà. J'entends votre réflexion. Pour moi, la réaction, c'est de dire quel est l'objectif de cette organisation si on laisse un découpage départemental dès lors que c'est la région qui a la compétence. Il y a plus de raison d'avoir ce découpage-là. Sinon, quelles économies on va faire ? Aucune. Parce qu'au contraire, on va créer une administration supplémentaire au niveau régional pour encadrer l'ensemble des départements. Je suis pas sûr que ce soit l'objectif et je serai à la tête d'une région, je dirais non, il faut organiser différemment la gestion du réseau. Mais avec un risque, en effet, un désavantage, c'est celui de la perte de proximité, mais qui serait inéluctable, à mon sens, à terme. Donc, voilà. Bon, ça fait partie du débat, naturellement, d'autant plus que, bon, voilà, on est en pleine phase de discussion et on ne sait pas demain, en effet, ce que une collectivité départementale aura à gérer, même si on commence à avoir les grandes lignes. Mais pour nous, ça nous paraît être indispensable qu'on garde cette proximité et ce rôle de proximité, justement, pour que les élus du territoire, demain les conseillers départementaux, puissent avoir ce contact avec la population, justement, avec ce mode d'élection qui font qu'ils restent attachés à un canton, même si il est beaucoup plus vaste. Ils sont deux sur ce canton.
Mais ils sont
parité homme-femme. Mais ils seront attachés à un territoire. Et ça, c'est important. C'est la substance même du conseil départemental.
Oui, on voit bien que les enjeux sont importants et qu'il faut que nos concitoyens s'informent, hein, aillent chercher de l'information aussi, alors pas que sur Internet, mais en écoutant nos émissions.
Voilà, on aurait eu beaucoup d'autres choses à dire, mais le temps imparti vient de se terminer. Éric Moratti, merci beaucoup d'être venu.
Merci à vous, c'était un échange intéressant. Et voilà. Avec les auditeurs, j'espère qu'ils auront pu mieux comprendre ce qu'était le Conseil Général et futur Conseil départemental.
Et puis l'importance que ça a dans les prochaines élections et qu'il ne faut pas louper ça.
C'est cela.
Merci à vous.
Merci. 22 mars, 29 mars, les élections, bien sûr, À venir, vous pourrez écouter bien entendu certains candidats sur notre antenne et suivre une soirée spéciale ces deux soirs-là, dès 20h on redonnera tous les résultats en direct. Avant notre pause musicale, un bouquet de fleurs à gagner, même deux, avec notre partenaire Autour des Fleurs pour la fête des grands-mères, qui fête des grands-mères ce dimanche, des bouquets d'une valeur de 30€ et qui sont livrables jusqu'à Badaroux et Le Chastel. Donc je vais vous demander de nous envoyer un mail sur redac@48fm.org, redac@48fm.org, et nous dire Eric Moratti est le directeur général des services de quel conseil, si c'est le conseil général ou le conseil régional. Voilà, pas très dur, et on vous fera gagner un autre bouquet à la fin de cette émission. Donc n'hésitez pas pour la fête des grands-mères avec notre partenaire Autour des Fleurs. Allez, une pause musicale, on revient de suite parler de cinéma.
That sun again, and means another day without you, my friend. And it hurts me to look into the mirror at myself, and it hurts even more to have to be with somebody else. And it's so hard to do and so easy to say. Sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away. So many people to love in my life. Why do I worry about one? But you put the happy in my nest, you put the good times into my fun, and it's so hard to do and so easy to say. Sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away, and a head for the door. We've tried the goodbye so many days. We walk in the same direction so that we could never stray. They say if you love somebody, then you have got to set them free. But I would rather be locked to you than live in this pain and misery. They say time will make all this go away, but it's time that has taken my tomorrows and turned them into yesterdays. And once again that rising sun is dropping on down, and once again you, my friend, are nowhere to be found. And it's so hard to do, so easy to say. But sometimes, sometimes you just have to walk away, walk away, and head for the door. You just walk away.
FM Le Mag.
Allez, on est reparti. On va parler maintenant de cinéma, de culture, avec l'association Nouvelle Dimension, comme invité Guillaume Sapin, qui est responsable de cette association. Et on a invité aujourd'hui Guillaume Sapin, car il y a un festival qui va commencer. C'est la 6e édition de ce festival de cinéma, 48 images secondes, qui est organisé sur tout le département très prochainement. Peut-être pour commencer, Guillaume Sapin, vous présentez votre cursus, qui n'a au final rien à voir avec le milieu du cinéma.
Oui, en fait moi je suis arrivé en Lozère, je vais faire court, hein. Je suis arrivé en Lozère il y a une dizaine d'années et pour faire de l'accompagnateur dans une montagne et donc j'ai plutôt un cursus géographe et aménagement du territoire d'ailleurs et mais j'ai toujours été passionné de cinéma, j'ai travaillé je suis bourguignon, j'ai travaillé longtemps dans un vidéoclub et je suis venu créer un vidéoclub à Florac pendant presque 8 ans puisqu'il est fermé maintenant, fermé entre guillemets puisqu'il était repris par une association qui s'appelle la Nouvelle Dimension. Et ce vidéoclub faisait bien autre chose, mais notamment une boutique DVD, et avait une antenne qui était associative, qui était le Cinéclub de Florac, avec lequel on avait créé ce festival qui s'appelait Rencontre des Cinéclubs de Florac la première, des Cinéclubs de Lozère la première année. Et d'année en année, ben le festival a pris de l'ampleur et depuis 6-8 mois maintenant, une association a repris toutes ces activités-là pour les mettre sous la même enseigne. Une entité associative pour le moment, qui est une association de préfiguration en fait, d'un centre de ressources et d'activités autour de l'image et du cinéma. Un centre départemental mais basé à Florac. Donc on a une vocation à... Alors je dis on parce qu'en fait je suis responsable au même titre que 8 autres personnes et on est tous présidents pour le moment et on tend à créer un pôle en 3 directions, un lieu basé à Florac où on a repris donc ce catalogue locatif qui est assez important puisqu'il est composé de plus de 4000 films de toute l'histoire du cinéma. Qui est mis à la disposition de tout le monde, tous les Lozériens, parce qu'on a changé beaucoup de choses au niveau de la possibilité de louer. Et aujourd'hui, c'est un abonnement annuel illimité, donc on vient échanger autant de fois qu'on veut dans l'année. On n'a pas besoin d'habiter à Florac pour venir louer des films. Il faut évidemment y passer de temps en temps, au moins une fois par mois, pour venir les ramener. Et un peu sur le modèle des bibliothèques, médiathèques.
C'est un grand projet, ça.
Ça, c'est un grand projet. Donc c'est un projet qui est lié.
Il n'y a rien en streaming, si ?
Non, rien de dématérialisé au niveau de la projection de films. Enfin, au niveau de la diffusion, des films. Hein, c'est-à-dire qu'on est assez attaché au rapport
à l'objet,
et puis au rapport à la clientèle, entre guillemets.
C'est un film en 16 mm?
Non. Non, c'est DVD, non, mais.
Quoi, des VHS
Moi, j'ai encore, j'ai encore beaucoup de VHS. VHS 8, il y a même encore du 16 mm. Et même des projecteurs.
Ben, c'est très bien. Il faut les conserver. Puisque le projet, il a quand même cette idée-là de conservation. On n'est pas parti sur un projet de cinémathèque pour le moment, puisqu'on n'a ni les compétences, ni les outils pour conserver et archiver. Par contre, il y a quand même cette logique-là derrière. On a encore 300-400 VHS. On a un certain nombre de revues qui datent un petit peu. Donc, d'année en année, il y a beaucoup de choses qui s'accumulent et rien ne disparaît. Donc, il y a toute cette dimension qui est liée au lieu, qui est basé à Florac pour le moment, aux 12 rues Armand-Jullier. Et ensuite, on a une dimension qui est plutôt liée à des publics ciblés autour d'ateliers d'éducation à l'image, d'ateliers ou de stages. Et ensuite, on a une dimension qui est liée au grand public par le biais de projections. Alors, beaucoup à la Jeunette Verte, puisqu'on est basé à Florac, mais on n'a pas forcément vocation à faire des projections que là-bas. Et puis, toutes ces activités-là sont mises en lumière par le biais du festival 48 images secondes, où on fait un petit peu de tout, et là où on se balade dans toute la Lozère.
D'accord. Donc, on retrouve des rencontres, des expos, des concerts, des projections.
C'est ça.
Mais avec une thématique cette année particulière.
Alors oui, il a fallu. Enfin, chaque année, on change de thématique pour ce festival. Et cette année, on était avec le changement de statut, on va dire, une nouvelle équipe, etc. On a pris beaucoup de retard.
Alors pourquoi le Québec ?
Alors pourquoi le Québec ? C'est la question qu'on me pose souvent, et j'ai pas de réponse à proprement parler. Si
parce
ce n'est
que c'est la neige, non ?
Alors
le sirop d'érable.
Il y a un côté effectivement assez proche de la Lozère qui fait qu'on savait que c'est une thématique qui intéresserait du monde. Après, il y a le côté francophone, mais c'est pas forcément simplement ça, parce qu'il fallait encore avoir des choses intéressantes à mettre derrière. Et c'est plutôt un effet boule de neige lié à des rencontres successives entre l'été dernier et l'automne, qui fait que On a eu des opportunités de rencontres, d'invités, de mise en place d'avant-première, de gens qui ont été tout de suite à l'écoute et ont envie de participer à ce projet. Et donc c'est un ensemble de choses qui a fait qu'on a choisi le cinéma québécois et qui fait que c'est pas impossible qu'on continue sur cette thématique-là, non pas forcément exclusivement pour le festival, mais de manière régulière chaque année. Pour l'instant, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, on a essayé de mettre le paquet pour cette année en invitant plein de gens, et puis on va voir comment ça se passe.
Il y a des grands réalisateurs ou acteurs québécois ?
Alors, le plus grand, je pense, en tout cas le plus connu, c'est Denis Arcand, qui a eu le César du meilleur film en 2004 pour Les Invasions Barbares, parce que c'est une production franco-québécoise, qui est un des réalisateurs les plus connus et surtout qui a, avec le déclin de l'Empire américain en 86-87, a permis de faire vraiment, on va dire, exporter les productions québécoises à l'international. Et c'est un monsieur qui est encore actif aujourd'hui. On a son frère d'ailleurs, Gabriel Arcand, qui est acteur et qui, mais non moins connu, et qui viendra à Florac pendant du 4 mars.
Il y aura Xavier Dolan aussi.
Il y aura Xavier Dolan de manière dématérialisée pour le coup. Non, on l'a pas invité.
Parce que c'est un magnifique film qu'il faut tout
bien,
prévoir.
Bien sûr, Mommy, c'est un...
C'est génial d'avoir programmé ça.
Mais alors ça, par exemple, ça fait partie des éléments qui ont fait qu'on s'est conforté sur cette thématique-là. C'est grâce à notre partenaire Cineco. Ouais. Bah, c'est un mélange de choses. C'est-à-dire Cineco étant décalé, donc Cinéma Itinérant Cévennes étant décalé au niveau de la programmation, on n'avait pas encore programmé Mommy. Donc on s'est entendu très en amont pour que Mommy à la fois coïncide à la période du notre festival, voire même, donc là c'était en l'occurrence la séance d'ouverture, mais en plus puisse être vraiment présenté à l'intérieur et pas simplement comme faisant écho au festival. Et du coup, non, c'est important, on aurait pu projeter d'autres films de Xavier Dolan, mais c'était l'occasion qui fait de l'art, comme on dit.
Bah ouais. Non, mais c'est un très très beau choix.
Ouais, on rappelle vos thèmes des précédents festivals, c'est intéressant quand même, la nouvelle vague, le cinéma indépendant new-yorkais, le cinéma fantastique, le cinéma japonais, le western, donc cette année le Québec, on voit tous l'éclectisme de
vos
choix.
Pour Ludo, vous ne pourriez pas faire de l'érotique un peu ?
Bah on pourrait, oui.
Pas les prochains.
Non, en fait, la thématique, elle est choisie un peu par coup de cœur, mais...
Il y en a québécois, le cinéma érotique québécois.
Ah, peut-être, je poserai la question.
Ouais, mais dans la neige.
Mais c'est surtout qu'on avait envie d'amener, de faire rencontrer un public pas forcément initié. C'est pour ça que les séances sont vraiment ouvertes à tous, avec des intervenants, critiques, historiens du cinéma qui ont plutôt l'habitude d'intervenir à Paris ou dans des grandes cinémathèques. C'est pour ça qu'on avait démarré très fort avec Jean Douchet, qui était revenu l'année dernière sur le western, mais aussi avec Thierry Jousse, avec Jean-Baptiste Auré, qui sont des gens qui sont connus sur des radios de plus grande ampleur, on va dire, nationale, et ou sur des animations de festivals relativement importants, qu'on a réussi à faire venir au fil des ans. Et donc, ce qui, pour nous, ce qui était important, c'était de faire rencontrer le public avec des historiens, des critiques, des gens qui pouvaient apporter des clés et qui n'étaient pas forcément dans ni de l'amateurisme, ni du petit ciné-club local, etc. On s'est aperçu au fil des ans qu'on a une partie des gens qui répondaient présents, mais pour d'autres, ils avaient presque peur de pas être à la hauteur, alors qu'on n'était pas dans un cours théorique, mais plutôt effectivement dans quelque chose de plutôt conférence. Donc là, on avait choisi avec le cinéma québécois une direction un petit peu différente, non pas que la thématique soit plus simple, mais c'est qu'en termes d'animation, on a deux personnes qui viennent animer, Sylvain Garel, qui lui est l'ancien directeur du cinéma québécois de Blois dans les années 90, qui est un historien du cinéma québécois, et un animateur québécois qui lui est animateur radio, télé, animateur de séance, et qui lui est plutôt... Sa place, elle est entre le réalisateur, par exemple, l'invité et le public. Donc, il est là pour aider le public à poser des questions à l'invité, etc. Et donc, c'est ça qui va peut-être permettre aussi de faciliter un petit peu les gens,
les débats,
et de moins se retrouver confronté, effectivement.
Quoi, c'est ça.
Voilà. Et moins se retrouver confronté avec quelqu'un comme Jean Douchet l'année dernière qui nous a fait une heure de conférence sur Sergio Leone, qui était absolument passionnant, mais qui, effectivement, certains se sentaient un petit peu dépassés.
Beaucoup d'intervenants cette année ?
Oui, en fait, d'habitude, on en a un. Et cette année, on en a, je ne sais pas, parce que ça change un petit peu, pas tous les jours.
D'où vient cet engouement ?
Ben, en fait, c'est la nouvelle dimension qui a voulu apporter un nouvel effort. Et puis ensuite, comme je disais en introduction, c'est un effet boule de neige qui fait qu'on a eu l'opportunité de faire venir un tel. Et pourquoi on ferait venir un tel et pas un autre? Et ben, par exemple,
c'est l'effet boule de neige, quoi.
Oui, effet boule de neige, ça va bien pour le Québec et l'hiver. Ouais. Et si je prends l'exemple de Richard Desjardins, on avait prévu de projeter l'aurore boréale et on est parti sur un délire de dire tiens, on pourrait le faire venir en concert. Il se trouve qu'il est en tournée en ce moment en France, il fait que quelques dates et on a fait décidé de faire l'effort financier de le faire venir pour donner une autre dimension à ce festival et puis ensuite faire venir, et on le voit là au vu du nombre de réservations, que les gens vont répondre présents au concert et potentiellement se répercuter par effet boule de neige encore une fois sur les séances la veille et le lendemain.
Et vous êtes sur l'ensemble du territoire, vous auriez pu vous arrêter à Florac pour limiter les frais, etc. Pourquoi ce besoin d'itinérance de...
En fait, historiquement, c'était les rencontres des ciné-clubs de Lozère avec Fabrice Andrévon, le ciné-club de Marvejols, le ciné-club de Mende. On était trois à la base. On a voulu essayer de créer quelque chose. C'est plutôt Flora qui a voulu essayer de créer quelque chose de cohérent. L'idée, c'était que les gens se rencontrent. On s'est rendu compte au fil des ans que les gens de Langogne, par exemple, ne venaient pas forcément en projection à Florac, que les gens de Saint-Chély ne venaient pas forcément à Mende. Donc, ce qui était important, c'était que chaque territoire puisse recevoir la même qualité d'intervention. Et jusqu'à présent, on a fait intervenir les personnes sur Florac et après, les autres communes ne faisaient que projeter. Cette année, il y aura des intervenants et des invités à chaque projection. À peu de choses près. Et du coup, Daniel Racine, notre intervenant principal, lui, il va se balader. Il est là pendant 15 jours et à chaque projection, il va être présent. S'il est pas là, par exemple, pour le Tudor Nicole, qui était en avant-première française sur trois dates, Florac, Saint-Chély et Langogne, à Saint-Chély d'Apché, il y aura le réalisateur qui sera présent. À Langogne aussi le lendemain, on aura une réalisatrice qui sera présente à Mende. On aura, voilà, chaque soir, chaque jour, on aura des invités. Et ce qui était important, c'est que tous les publics puissent se rencontrer. Alors, évidemment, le gros du morceau est à Florac, puisque l'équipe coordinatrice est à Florac. Mais on a, si je prends Marvejols, par exemple, avec le nouveau ciné-club, quelque chose de très, très dynamique là-bas. L'année dernière, ils ont fait la plus grosse séance avec « Il était une fois dans l'Ouest ». Cette année, je pense qu'ils auront du monde avec Starbuck aussi, et qui sera donc animé par Daniel Racine.
Je vois qu'il y a une réalisatrice équitable. C'est quoi une réalisatrice équitable?
Alors, réalisatrice équitable, c'est une association québécoise qui travaille, qui œuvre pour la place de la femme dans le cinéma et la télévision au Québec.
Mais dans la production ou
À tout niveau d'échelle.
À tous les niveaux.
Et donc, c'est une association qui existe depuis 10-15 ans, qui est très connue au Québec, qui, grosso modo, fait la promotion des films réalisés par des femmes. Et donc, on a deux ambassadrices qui viennent cette année. Une qui s'appelle Pascale Malaterre, qui fait partie du conseil d'administration de réalisatrices équitables, qui, elle aussi, est artiste plasticienne et qui vient faire une exposition pendant une semaine à la Meilleure du Florac, à partir de lundi prochain. Et donc elle viendra présenter des films, enfin ou des extraits de films réalisés dans le cadre de réalisatrice équitable. Il viendra présenter l'association. Et ensuite on a aussi Julie Lambert qui elle viendra la semaine suivante sur deux projections de son film qui s'appelle Un film de chasse de filles à Florac et à Saint-Martin-de-Lensusque. Ne cherchez pas celui-là dans le programme parce qu'il vient d'être placé. Et donc elle vient aussi en partenariat parce qu'elle est invitée au Festival du film de femmes de Créteil, qui lui est un festival bien plus important puisqu'il existe depuis plus de 30 ans. Et donc là, c'est un partenariat commun. On a divisé les frais en deux pour pouvoir la faire venir, mais du coup, ça permet de bénéficier à moindre frais de réalisateurs qui viennent présenter des films en avant-première, puisque un film de chasse de filles sera la première projection à Mende européenne. Au même titre que 1987 dans la même journée. Donc rien que sur la journée de Mende, on aura deux avant-premières, un invité, un réalisateur.
Alors les Mendois, n'hésitez pas à y aller.
Oui, surtout qu'il y a une soirée tout spécialement...
Alors qu'est-ce qu'il y a spécifiquement sur Mende?
Alors sur Mende, ça va démarrer à 14h avec un formidable comédie qui s'appelle 1987.
Donc c'est le 11 mars. Hein
oui, le 11 mars. 1987 de Ricardo Trogi. C'est une comédie... Plutôt, alors à la fois pour les ados, parce que c'est l'histoire d'un gamin de 17 ans qui finit le lycée, mais c'est aussi pour les, parce que pour les gens qui avaient 17 ans en 1987, donc ils se reconnaîtront. Et donc c'est un film qui a été très travaillé au niveau des décors, des costumes, etc. C'est une très chouette comédie où on va cibler essentiellement un public de lycéens, mais pas que, puisque ça parle vraiment à tout le monde avec une bande son qui du tonnerre. C'est un film qui, à mon avis, sera assez inédit en France, puisqu'il n'est pas pour l'instant pas prévu en sortie française. Donc je vous conseille vivement de venir le voir. Vous serez quasiment les seuls et uniques en Europe à l'avoir vu, puisqu'il a été projeté qu'une fois pour l'instant à Paris, à Cinéma du Québec. C'est un événement qui a lieu au mois de novembre. Ensuite, il y aura une séance pour les tout petits à 16h pour les 2-4 ans, vraiment les tout petits, en partenariat avec Naître et Grandir, pour une séance de courts-métrages, 4 courts-métrages qui sont présentés par Daniel Racine, qui lui a travaillé à l'Office national du film au Canada, qui a animé pendant 15 ans des ateliers pour les petits, justement, et qui va présenter et animer cette séance. Et ensuite, on a une soirée qui sera présentée à partir de 18h autour de films de chasse, et où là on invite vraiment tout le monde à venir rencontrer des chasseurs et tous les chasseurs à venir rencontrer et public cinéphile, puisqu'on est sur deux films qui ne sont ni pro-chasse ni anti-chasse, qui sont là pour montrer des hommes dans la nature. Alors des hommes dans le premier, puisque c'est La Bête Lumineuse, un des plus grands classiques du cinéma québécois de Pierre Perrault. Et ensuite, un film de chasse de filles qui, là, fait la part belle à la chasse féminine au Québec, qui prend de plus en plus d'ampleur. C'est deux magnifiques documentaires qui, avec des invités à chaque fois, la réalisatrice.
Elle tire le caribou, c'est ça?
Elle tire le caribou, exactement. Non, c'est vraiment une soirée qui s'annonce très... qui est en partenariat, d'ailleurs, avec la Fédération des chasseurs de la Lozère. On est allé les voir pour les inviter tout spécialement.
Et c'est une belle journée, donc.
C'est une très, très belle journée. Et cette soirée-là sera répétée le lendemain soir à Saint-Martin-de-Lonsus pour les chasseurs Sénol. On a voulu diviser par deux pour éviter, parce qu'il y a quand même 10% de la population de la Lozère qui chasse. Donc, salut Urbain 5, le mercredi 11 mars, j'ai peur que ça ne tienne pas.
Il y a 180 places, quand même.
Oui, mais bon.
Et il faut, en tout cas, on vous le souhaite.
Ouais, il faut rappeler les dates aussi, parce qu'on ne les a pas annoncées depuis le début. Ça commence le 2 mars.
Alors voilà, ça démarre lundi prochain avec un stage de cinéma qui a lieu toute la semaine, qui peut être divisé en modules. Donc si pour ceux qui sont intéressés, venir une journée pour découvrir l'histoire du cinéma québécois, il suffit de nous contacter. Du lundi au vendredi, ce stage. Ensuite, ça démarre le mercredi 4 mars à la Jeunette Verte avec Momi à 21h et avant la soirée d'ouverture à 19h30. Et ensuite, jeudi, vendredi, samedi jusqu'au dimanche 8 mars à Florac. Et pour la semaine qui suit, ça démarre le dimanche 8 mars à Saint-Chély-d'Apché, puis le lendemain à Langogne, Marvejols, Mende, Saint-Julien-du-Tournel, La Nuéjol dans le Val-d'Oise, et ça finira à Sainte-Croix le samedi 14 mars.
C'est un gros budget, non, quand même, pour une association comme la vôtre.
C'est un énorme budget, surtout qui est multiplié par 4 cette année par rapport aux années précédentes.
Est financé, multiplié par 4 aussi, les finances publiques.
Alors, écoutez, ça démarre plutôt bien cette année, contrairement aux années précédentes. On a le conseil régional qui finance enfin le festival, donc ça, on en est assez content. Et surtout, on a des gros partenariats internationaux avec notamment la délégation générale du Québec à Paris, qui, malgré leur pénurie financière, ont décidé quand même de mettre un petit peu de moyens sur ce festival. On a des partenariats au Québec pour faire venir les Québécois. Et on a beaucoup de finances, enfin beaucoup. La mairie de Florac, par exemple, qui a multiplié par 4 son budget sur ce festival par rapport aux années précédentes. Donc on a un soutien cette année qui n'était pas du tout... Alors après, c'est aussi peut-être que l'ampleur du festival commence à faire parler un petit peu plus.
C'est une notoriété,
oui. Oui, voilà. Ouais. Mais il y a beaucoup d'autofinancement, donc on espère que les entrées seraient multipliées par 4 aussi, ce qui est tout à fait faisable parce qu'on était quand même sur des chiffres assez modestes les années précédentes, et 400 spectateurs je crois l'année dernière sur 15 séances.
Donc là vous voulez arriver près entre 1500 et 2000 spectateurs.
C'est ça. D'accord. S'il faut dépasser la barre des 1000.
C'est quoi les tarifs là? sur une
soirée. Séance, ça coûte 6 euros.
C'est le tarif du cinéma.
Voilà, il y a beaucoup de tarifs réduits. Si vous rentrez pas dans les tarifs réduits, c'est pas de chance, mais vous pouvez rentrer à 4 euros sans problème. Après, les doubles soirées, je pense à la soirée Denis Arcand ou la soirée film de chasse, on a les tarifs à 8 euros pour les deux films. Et ensuite, le concert de Richard Desjardins, c'est 15 euros et 10 euros de tarif réduit. Donc, c'est des tarifs qui sont relativement modestes. Puis, il y a un pass, surtout, à 30 euros. Vous pouvez voir toutes les séances de Flora qui demandent. Et après, c'est le tarif des séances de chaque partenaire. Mais c'est les tarifs de cinéma habituels.
On retrouve toutes ces informations sur un site internet?
Oui, www.48 en chiffres, images au pluriel, secondes au singulier.fr. 48imagessecondes.fr.
Et en termes techniques, juste une question. Est-ce que les gens qui vont venir, ils sont dans de bonnes conditions pour voir les films ou est-ce que des fois, ça va être un peu route?
Les gens qui vont venir, c'est les spectateurs. Est-ce qu'il y a au niveau de la projection?
Ouais, au niveau de la qualité de projection et d'écoute du film. Parce que c'est vrai que voir un film dans de mauvaises conditions, c'est un peu dommage. Donc, vous avez prévu, je pense.
Alors, la majeure partie des films sont projetés en DCP, donc qualité numérique cinéma. Quelques films n'étant pas disponibles seront projetés en DVD. Tous les films seront sous-titrés. Ça, c'est une question qui revient beaucoup. Parfois, à certains moments, parfois intégralement. Je pense à La Bête Lumineuse qui est très complexe à comprendre si on n'a pas les sous-titres. Mais je vous rassure, même les Québécois non plus ne comprennent pas tout ce qui se dit dans certains films. Parce que le jeu, si on prend l'exemple de Momie dont on parlait, il allait chercher des accents particuliers de quartier de Montréal et qui fait que ça donne aussi un certain exotisme, mais c'est des conditions cinéma de projection.
D'accord. On a cinq. Ça, c'est important de le dire. Que vous avez bien respecté ces conditions-là pour que la qualité soit au rendez-vous.
C'est la priorité. Je pense pas, même dans des petites salles communales comme à Saint-Julien-Tournelle ou à la Nuéjolle, ils ont l'habitude de projeter. C'est des équipes qui sont là pour ça. Il y aura pas de souci pour ça.
Très bien.
Très bien. Éric Moratti, les films, c'est...
Ça vous donne envie,
Ah oui, tout à fait. Hein. C'est passionnant. Et puis, ça donne une image d'attractivité pour notre territoire, de pouvoir faire venir justement des gens du Québec et puis de faire parler aussi d'un festival où il y aura des films qui seront projetés des films une seule fois en Europe. Hein. Donc, c'est aussi un moyen de peut-être attirer aussi des visiteurs qui viennent de l'extérieur. Donc ça, c'est très positif.
On en a au niveau des réservations, ça vient de la Bretagne, la Bourgogne, Paris. Cette année, pu attirer pas mal de monde, de gens de loin. Et du coup, je pense que ce sera... Dans tous les cas, déjà, rien qu'au niveau de la préparation, c'est une réussite. On verra si le public répond présent, mais il n'y a pas...
En général, quand il y a de l'exigence et de la qualité, les gens viennent. Quoi.
Je suis assez confiant.
Bravo.
C'est bien, bravo.
Ouais.
Bravo.
Ça donne très envie.
Richard Desjardins, sa guitare le vendredi 6 mars à 21h à la Jeunette Verte. Et comme vous allez avoir plein de monde, vous allez avoir plein de recettes, vous pouvez vous permettre de faire gagner des places. Vous nous offrez pour nos auditeurs, et c'est sympa, une place pour ce concert.
Oui.
On va vous laisser poser une question, à répondre toujours pareil sur notre mail redac@48fm.org, redac@48fm.org, Guillaume.
Alors, pour ceux qui ont bien écouté, s'il y a un seul film québécois qui a eu le César de meilleur film français de tous les temps, en 2004, je vous laisse deviner quel film c'est, vous enverrez la réponse à donc redac@48fm.org et vous gagnez une place pour le concert de Richard Desjardins vendredi 6 mars.
Et ils sont plus difficiles que mes questions.
Ah oui, il fait appel à l'intelligence de nos auditeurs.
Voilà, Ludo. Exactement. Et si vous réécoutez cette émission jeudi, pas la peine de jouer, c'est la rediffusion. n'envoyez pas de mail, ça sera fini. Merci à tous les deux d'être
venus. Il reste des places encore.
Il reste des places. N'hésitez pas à vous renseigner auprès du site internet, 48imagessecondes.fr. Merci à tout le monde.
Merci.
Allez, merci, bonne journée.
Allez, on va se quitter avec l'agenda culturel de la semaine et également le petit générique de fin. C'est parti.
Le Conseil Général soutient la diffusion culturelle tout au long de l'année en Lozère. Retrouvez sur culture.lozère.fr toute la programmation, les possibilités de pratiques artistiques, des reportages et des jeux pour gagner des places, abonnements et divers lots. Le Conseil Général de la Lozère vous présente les saisons et les événements culturels du département sur 48 FM.
Votre agenda culturel du mardi 24 au lundi 2 mars 2015. Bonjour Nicolas.
Bonjour Marie.
Alors on commence mardi 24 février au Trianon Cinéma de Marvejols à 20h30 avec du cinéma et le film Psychose, un thriller épouvante horreur. Marion Crane en a assez de ne pouvoir mener sa vie comme elle l'entend. Son travail ne la passionne plus, son amant ne peut l'épouser. Mais un beau jour, son patron lui demande de déposer 40 000 $ à la banque. La tentation est trop grande et Marion s'enfuit avec l'argent. Très vite, la panique commence à se faire sentir. Ce sera proposé par le Ciné-Club de Marvejols.
Mardi 25 février au Ciné-Théâtre. À 18h, une projection d'un film documentaire, Rembrandt. Chaque exposition de Rembrandt est attendue avec impatience. Celle-ci est proposée par la National Gallery de Londres et le Rijksmuseum d'Amsterdam et met l'accent sur les dernières années de la vie de l'artiste et sera la plus grande et la plus complexe exposition proposée depuis de nombreuses années. Tout en restant assis dans votre salle de cinéma, partez à la découverte des plus grands chefs-d'œuvre de l'âge d'or hollandais, présentés par des historiens de l'art renommés. 4 €, 5,80 € et 6,80 €. C'est ouvert au tout public et c'est organisé par le Ciné-Théâtre.
Vendredi 27 février, à l'Espace des Anges à Mende, à 18h30, du théâtre, avec le spectacle Le Vieux Pêcheur. L'appel du grand large ne connaît pas d'âge. Le Vieux Pêcheur vous invite à découvrir la voie incertaine de l'océan à travers d'étonnantes rencontres et quelques remous. Vous embarquerez dans une aventure entre rêve et réalité, un voyage poétique en marionnettes et musique. Un vieux pêcheur n'attrape plus rien depuis des jours. Lui qui pourtant, dans une autre époque, a appris à pêcher à tous les marins de l'île. Mais voilà, il semble que la malchance lui colle à la peau. Assis sur la plage, devant sa cabane, il se réveille brusquement après un rêve. Il a faim. Il sent ce rêve annonciateur et décide de retourner en mer une dernière fois. Celle-ci sera la bonne, celle où il va rencontrer le poisson de ses rêves, la plus grosse prise de sa vie. Il s'imagine la fierté dans les yeux de tous à son retour. Mais sa dernière rencontre en décidera autrement. Spectacle proposé par la ville de Mende.
Vendredi 27 février à Chanac, à 20h30, projection d'un film documentaire, L'école nomade. En Sibérie orientale, une école nomade, Evrink, a vu le jour. Elle nomadise, comme une famille nomade. Ordinateur, table et chaises sanglées sur les traîneaux de Rennes. Avant la mise en place de cette école, Andrei, Vitya et les autres étaient pensionnaires dans des villages pendant l'année scolaire. Ils perdaient leur langue et leur culture. À présent, ils n'ont plus à faire ce choix entre un mode de vie traditionnel et l'accès à une certaine modernité. Ils poursuivent le cursus académique russe tout en conservant leur mode de vie, la langue, les techniques et les rituels evank, organisés par Détour du Monde.
Rencontre avec Alice Bergeon de la Jeunette Verte à Florac qui nous présente le spectacle du Jeune Ballet de Lyon.
Bonjour. Voilà, nous avons donc le plaisir d'accueillir le Jeune Ballet du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Lyon le samedi 28 février à 20h30 à la Jeunette Verte. Alors ce sont 21 danseurs qui sont en quatrième et dernière année du conservatoire, donc ils sont en phase de professionnalisation. En faisant partie du Jeune Ballet, ils ont l'occasion de rencontrer des chorégraphes. Cette année par exemple, ils ont travaillé avec Emmanuel Gatt, avec lequel ils ont fait une recréation de Second Song, mais aussi avec Mitya Fedotenko, qui est déjà venu en Lozère, notamment dans Abba Bruit, un spectacle de cirque et de danse que nous avions accueilli à la Jeunette Verte, mais aussi avec Sonata Hamlet, qui était passé à Mende. Donc avec Mitya, ils ont travaillé sur une chorégraphie intitulée Génération Paumée. Mais au conservatoire, il y a également des cours de danse classique. Donc là, ils feront une création classique avec Marc Ribot, qui s'intitule « Au bord du précipice ». Et ils revisitent également Maurice Béjart, avec les danses grecques, qui ont été remontées par Dominique Genévois. Donc on est particulièrement fiers de les accueillir précisément cette année, puisqu'il y a un des danseurs, Jules Martin, qui vient de Florac, et donc il a fait ses premiers pas en tant que danseur avec l'association Ballet Brosse. Donc ça nous donnera l'occasion d'organiser une rencontre entre les danseurs de Ballet Brosse et les danseurs du Jeune Ballet pour déjà un stage dans lequel ils vont danser, découvrir un peu les chorégraphies. Et également une discussion autour de cette professionnalisation s'il y a des autres jeunes danseurs qui ont le souhait de se professionnaliser et pourquoi pas devenir également un danseur professionnel comme le sera Jules dès l'année prochaine.
Samedi 28 février au café La Girafe Ronde à 21h30, de la musique avec un concert du groupe Labrador. La Girafe Ronde accueille le groupe Labrador, musicien de la création sonore du spectacle K1, programmé le mardi 3 mars à la salle polyvalente de Marvejols, en partenariat avec les Scènes Croisées et le Théâtre de la Mauvaise Tête. La musique du groupe Labrador, à la fois acoustique et électronique, dégage une douce mélancolie, une poétique chantée qui nous emporte entre ombre et lumière, brasse les humeurs et butine à travers un spectre d'état d'âme. C'est un spectacle entrée libre et c'est proposé par la Girafe Ronde à Marvejols.
Dimanche 1er mars, au ciné-théâtre de Sachy-Lidapché à 16h30. Pardon. Cinéma, La Bête du Gévaudan, 1764-1765, Deux ans à tuer. Donc c'est un film qui a été réalisé par Jean Soulet, réalisateur lausérien, et les membres de l'équipe artistique et technique. Donc une fiction historique inspirée de documents d'archives qui plonge au cœur de la légende, confrontant différentes thèses expliquant le phénomène de la bête. Tournée au cœur du patrimoine de la Lozère, la chapelle Saint-Jean à Serverette, la commune de Fontance, les châteaux de Saint-Alban et de Fournelles. Ce film a été réalisé par une équipe technique professionnelle, une équipe artistique semi-professionnelle et des bonnes volontés locales. Voilà, l'entrée est à 5€, c'est tout public à partir de 6 ans et c'est organisé par le ciné-théâtre de Saint-Chély-d'Apcher. Bonne semaine à tous.
Bonne semaine.